Vous écoutez
RMC.
20h31, vous êtes sur RMC. Dans moins d'une demi-heure, coup d'envoi des huitièmes de finale, retour de Ligue des Champions. Roland Courbis est avec nous. Oussem Loussaïev, bien entendu. À 21h, coup d'envoi de Barça-Napoli, hein, partout lors du match aller. L'autre huitième de finale va opposer Arsenal au FC Porto. Arsenal qui espère se qualifier pour les quarts de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 14 ans. Un but à rattraper donc pour les Gunners. Match que va nous faire vivre Pierre Thévenet. Salut Pierre.
Salut Nico, salut à tous.
Salut Pierre. Est-ce qu'il a les compos celui-ci?
Bien sûr. Bien entendu, j'ai les compos. La composition donc d'Arsenal pour commencer avec un absent de marque, Gabriel Martinelli, blessé au pied. Elle n'est pas là. Ça donne David Raya, bien sûr, dans les cages. La défense ne change pas par rapport au match aller. De droite à gauche, Ben White, William Saliba, Gabriel et Jakub Kivior, le Polonais. Au milieu de terrain, c'est donc Jorginho qui remplace numériquement Martinelli, qui se place au milieu aux côtés de Declan Rice et de Martin Odegaard. Kai Havertz monte d'un cran en pointe de l'attaque avec Leandro Trossard à gauche et Bukayo Saka à droite. Et du côté des Portugais, aucun changement par rapport au match aller. Diogo Costa est bien là dans les cages. Charnière, Otavio avec Pep, son 120e match de Ligue des Champions ce soir. João Mario à droite, Wendel à gauche, Alan Varela et Nico Gonzalez au milieu de terrain. Et puis devant, Galeno côté gauche, 5 buts cette saison en Ligue des Champions. Francisco Conceição à droite et Pepe en soutien d'Evan Nilsson.
Merci beaucoup Pierre, qu'on retrouve pour le coup d'envoi de ce match entre Arsenal et le FC Porto. Julien Laurence, notre drôle de dame anglaise, est avec nous. Salut Juju.
Salut Nico, salut
Julien. Alors Julien, on se souvient qu'Arteta, il était très contrarié après le match aller. Il avait reproché au Porto de Sergio Conceição de casser le rythme. Alors faut dire qu'il y a quand même une grosse pression, une grosse attente autour d'Arsenal. Archi favori pour les bookmakers. Cote à 1,40 pour les Gunners. On rappelle qu'Arsenal a plus atteint l'écart de Ligue des Champions depuis 14 ans. Il y a une vraie pression autour d'Arsenal ou pas, malgré cette historique finalement qui n'est pas très favorable?
Oui, je pense aussi, parce que effectivement au moment du tirage, tout le monde a dit que c'était plutôt un tirage abordable, ce qui est vrai. Porto est une très bonne équipe. C'est difficile à jouer contre eux. On l'a vu au match aller, ils sont capables de casser le rythme, effectivement, ce qu'ils ont très bien fait. Mais ils ont aussi des très bons joueurs de ballon, comme Galeno sur son but. Donc, je pense que la pression, elle vient de là. Elle vient du fait que beaucoup considéraient Arsenal largement favori, qu'ils allaient se qualifier, et qu'au final, maintenant, on voit avant ce soir que ça va être peut-être plus compliqué que prévu pour certains, et que ce but concédé très très tard au match aller, aujourd'hui fait un petit peu tâche, parce que quand tu vois leurs résultats depuis 2024, depuis le début de l'année, c'est extraordinaire en championnat. C'est 8 matchs, 8 victoires, 33 buts marqués, 4 encaissés, je crois, un truc comme ça. C'est hallucinant. Donc c'est vrai qu'on les voyait peut-être pas dans cette situation après le match aller. Donc la pression est là, ça fait longtemps. C'est les leaders de la première ligue aussi, contre le troisième du championnat portugais. On n'a rien contre le championnat portugais, surtout pas toi, Nico. Mais voilà, c'est vrai que sur le papier, c'est comme ça. Et donc je pense que la pression vient de là aussi, ouais.
Alors on va arrêter sur un joueur qui est en pleine bourre en ce moment. Et c'est Kai Havertz. Écoutez un peu ce que les fans d'Arsenal ont concocté pour lui. Kai Havertz scores again. Kai Havertz a encore marqué un chant des fans des Gunners dédié à l'international allemand. Décisif en première ligue le week-end dernier contre Brentford. Il est en pleine bourre, je le disais. 4 buts de passe dé sur ses 4 derniers matchs de première ligue. Si on m'avait dit après ces 2-3 premiers mois que les fans chanteraient cette chanson avec cette passion, j'aurais du mal à le croire, a déclaré son entraîneur Mikel Arteta, alors qu'il se dit très heureux par la situation de son joueur. Havertz est-il devenu l'un des patrons d'Arsenal? On vous pose la question au 32-16. Et surtout, Julien, moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe avec Havertz depuis quelques semaines, quelques mois là? Il est métamorphosé, le gars.
Ouais, je pense qu'il avait besoin de temps aussi, tout simplement, pour s'adapter à ce nouveau jeu, à cette nouvelle philosophie, ce nouveau style de jeu. Il a quand même été recruté pour jouer à la place de Granit Xhaka en tant que numéro 8, oui, dans un milieu à 3 sur le côté gauche, ce qui, je pense, était pas une mauvaise idée à la base, et marchera peut-être un jour, mais c'est vrai que tu le dis, il est bien meilleur quand il joue dans l'axe en 9 ou en léger faux neuf, on va dire, comme c'est le cas ce soir. Moi, je pense que c'est un joueur fantastique avec une qualité technique extraordinaire, vraiment, qui parfois paraît peut-être un petit peu nonchalant quand on regarde au stade en direct ou même à la télévision, mais qui a un talent incroyable, qui peut jouer partout. Et c'était peut-être ça finalement qui l'a gêné quand il est arrivé du Bayer Leverkusen à Chelsea d'abord et puis après à Arsenal. C'est que, est-ce que c'est un neuf, est-ce que c'est un deuxième attaquant, est-ce que c'est un 10, mais quel genre de 10? Est-ce que c'est plutôt un 8? Par exemple, Arteta reste convaincu aujourd'hui, même s'il le fait plus trop jouer en 8.
Alors, où est-ce que tu le préfères, toi?
Qui fera un 8 magnifique. Moi, je l'aime bien en 8. Je pense qu'il a tout. Il est costaud, il est grand, il va plutôt vite. Il presse très, très bien. Les gens oublient.
Leverkusen, il était 9,5. Tu vois, moi, j'adorais le jeu.
Oui, voilà. Il jouait avec 2-10 derrière une pointe.
En poste de numéro 9, c'est compliqué, Julien. Tout seul.
Même s'il a des
ailiers. Oui, alors ça dépend des matchs, Oussem.
Ouais.
Il y a des matchs où il en est très capable, et puis c'est quelqu'un qui est costaud, qui est bon dans les airs, et surtout quelqu'un qui presse très très bien. Les gens oublient un petit peu aussi ce qui se passe sans ballon, j'ai l'impression. Oui. Et sans ballon, il fait un travail monstrueux pour Arsenal, dans la façon dont ils vont presser, contre-presser aussi. Et d'ailleurs, c'est les chiffres qu'il a à ce niveau-là dans les stats sont assez impressionnants. Oui, t'as besoin qu'il marque parce que c'est un joueur offensif et que t'as dépensé 70 millions d'euros, donc tu veux qu'il marque des buts et fasse des passes d'aise. Je comprends très bien. Mais je pense qu'il est aussi très important pour Arsenal sans le ballon, quand ils n'ont pas le ballon, en possession et en dehors de la possession. Et puis après, s'il arrive à trouver cette forme qui lui a toujours fait un petit peu défaut depuis qu'il est arrivé en Angleterre, ce manque d'efficacité un petit peu devant le but. On l'a vu contre Brentford, il marque le but vainqueur samedi à la 87e, mais avant il rate un contre un gardien par exemple sur son pied gauche en plus, où il doit vraiment marquer. Donc il a encore un petit peu ce défaut, je pense, d'inefficacité, mais pour moi c'est un talent incroyable.
Où est-ce que tu le préfères, toi, Oussem?
Moi, avec un 9, j'aurais bien aimé le voir en 9,5, tu sais, juste derrière l'attaquant.
Moi, c'est là que je préfère.
Mais là, dans la compo d'Arsenal en 4-3-3, en relayeur, j'aime bien.
Ouais.
Parce que, comme il disait Julien, j'aime bien sa manière de sentir le jeu, sa manière de faire jouer les autres. Et je trouve qu'il a pas les courses qui sont chères à Roland.
Sur ses déplacements, il peut être justement le
9,5. 9,5, c'est vrai. Parce qu'en fait, je trouve qu'il a pas les courses du numéro 9, en fait.
Ouais.
Il les a moins que ce qu'il a quand il est au cœur du jeu.
On a tendance
à. Après, Arsenal joue. Arsenal n'a pas besoin d'un vrai 9 non plus.
C'est ça aussi.
Je pense que c'est pour ça que ça peut marcher. Ça, tu vois, c'est que ces courses-là dont tu parles, Oussem, très, très justement, d'ailleurs, si t'avais alors, je pense que tout le monde voudrait aller dans son équipe, mais tu vois, ce genre de profil-là en 9. Là, t'as besoin d'un œuf qui finalement participe énormément au jeu. Gabriel Jesus, c'est pareil. C'est peut-être pas le plus efficace, mais t'as besoin de quelqu'un qui décroche beaucoup, qui touche le ballon, qui soit là, à droite, à gauche, qui crée des espaces pour les autres. Et ce qui est plus le cas d'un Havertz comme ça ou d'un Gabriel Jesus qu'un vrai numéro 9 un petit peu à l'ancienne.
Et on a tendance à l'oublier, j'allais vous dire, il a que 24 ans, Kai Havertz. Il avait été recruté très jeune par Chelsea. Chelsea l'avait payé 80 millions d'euros. Arsenal l'a payé plus de 75. C'est la troisième recrue la plus chère de l'histoire des Gunners. Est-ce qu'il pâtit pas un peu de ça? Parce que tu le disais, Julien, on regarde le prix. Bon, bah, c'est souvent comme ça. La PL, en plus, tout est amplifié, tout est surévalué, peut-être même aussi. Et c'est vrai qu'à côté de ça, lui, ses propres chiffres, ses statistiques, elles sont pas dingues non plus pour un joueur offensif.
Non, mais c'est vrai, d'ailleurs, la chanson qu'on a passé tout à l'heure des supporters d'Arsenal, la chanson 60 million down the drain, on a acheté 60 millions à la poubelle, en gros, tu vois, c'est ça la traduction. Ils en font maintenant, ils en ont fait, une ligne pour se moquer des critiques d'Havertz, mais à la base c'est ça, tu vois. Il y a beaucoup de gens effectivement qui ont dit qu'Arsenal a surpayé. Peut-être effectivement qu'ils sont un peu surpayés parce que je sais pas si vraiment il vaut ce prix-là. Après, Arteta le voulait vraiment. Il y avait plein de choses dans tout ce qu'ils avaient pu voir sur Havertz, toutes les stats, toute la data, etc. Cher à coach que ça pouvait marcher. Donc voilà, après, c'est toujours pareil, Nico, tu remportes le championnat parce qu'il marque à la dernière journée le but vainqueur ou la Ligue des Champions comme il l'avait fait avec Chelsea, bah forcément, tu regarderas le transfert et le prix d'une autre façon que s'ils finissent deuxième et perdent ce soir.
Alors sache qu'il est en train de diviser le chat de la chaîne YouTube de l'After Foot. Il y a Mog qui dit,
il y a de tout.
Havertz, c'est la raison pour laquelle Arsenal ne sera pas champion. Et on a Coco qui écrit, hyper important dans le jeu. Sans ballon, par exemple, il a été énorme face à Liverpool. Ce que tu disais, Jules, il y a quelques instants d'ailleurs.
Tout à fait.
C'est pas un mec qui fait l'unanimité quand même, hein.
Non, mais je pense qu'il le fera jamais. C'était le cas à Chelsea. Après, t'as des supporters. Je veux pas critiquer ceux qui le critiquent lui sur le chat. Mais voilà, je pense qu'il y a des supporters qui voient le football de différentes manières. Et comme on en parlait avec Oussem et encore le dernier auditeur là sur le chat, je pense qu'il fait des choses très importantes pour l'équipe sans ballon, c'est sûr. Bien sûr, j'aimerais bien qu'il mette 30 buts par saison comme Thierry Henry à l'époque, mais je vous mets tout de suite d'accord, il le fera pas ça. En revanche, ta contribution de 12-13 buts sur la saison de Première Ligue, quelques passes d'aise et tous les efforts qu'il fait en dehors quand Arsenal a pas le ballon ou quand Arsenal a le ballon mais c'est pas lui qui l'a, je pense que ça peut être très très important pour eux entre maintenant et la fin de saison.
Arsenal FC Porto, un 8e de finale retour de Ligue des Champions, coup d'envoi dans 20 minutes exactement, 1-0 à l'aller pour les Dragons. Dans quelques instants, on va replonger avec Juan Crochet dans le Barça Napoli de ce soir. Tiens, juste avant ça, il y a la Xavi qui reste une inconnue. Le nom d'Arteta revient avec insistance pour succéder à Xavi au Barça. Est-ce que tu as des infos là-dessus, Julien? Est-ce que tu crois à la possibilité de voir Arteta, à qui il reste qu'un an de contrat avec Arsenal, de partir dès cet été en Catalogne?
Tiens, je vais te répondre tout de suite. C'est impossible. Ça se passera pas cette année. Alors, je te dis pas qu'à la fin de son contrat, dans quelques années, je pense que comme tout ancien de la Masia, tout ancien Barcelonais, alors lui, il est pas catalan, mais voilà, qui sont passés par ce club-là, à mon avis, t'as toujours envie un jour d'entraîner cette équipe. C'est tout à fait normal, je comprends très bien. Mais Mikel en a parlé lui-même. Au club, on n'en parle pas du tout. Je pense que c'est impossible que ça arrive, qu'il soit intéressé par lui. Je comprends très très bien. On a vu ce qu'il a bâti à Arsenal sur les trois dernières années, un peu plus de trois ans maintenant. Donc je comprends très bien que ce soit assez impressionnant et que tu puisses avoir envie de l'avoir chez toi au Barça. Mais là, ce sera pas possible, non.
Merci Julien, qu'on retrouve ce soir dans l'after après sur Arsenal FC Porto. Bon match à toi, mon Juju.
À tout à l'heure, les gars. Bon match.
Merci.